Restons dans le débat à gauche, moi ça m'intéresse parce que j'y crois justement. Pas une passion pour les partis hégémoniques, donc ça m'intéresse qu'il y ait justement d'autres forces à gauche qui amènent du débat, parce que je pense, moi, très sincèrement, que le PS, aujourd'hui, en est surtout à la défense de ses baronnies, et qu'en fait, quand ils gouvernent dans les régions, ils gouvernent avec leurs techniciens, et puis la vision politique, on la voit plus, on la sent plus. Enfin bon, ça c'est un avis très personnel. Moi, ce qui m'intéresse justement dans le débat à gauche, c'est ce front de gauche et cette alliance que vous faites avec le PC, parce que moi je vous ai bien lu aussi sur votre blog, et vous n'êtes pas spécialement forcément un adepte du productivisme comme on peut le voir chez certains communistes. Je dis ça parce que donc, moi je viens de Haute-Normandie, et je vois qu'aujourd'hui le Front de Gauche présente donc... ça doit être un peu compliqué d'ailleurs, parce que ceux qui viennent du parti de gauche sont un peu derrière, en tête, trois communistes, dont tête de liste, le maire de Dieppe, communiste, productiviste, qui... pour l'implantation d'un EPR dans sa région, pour une usine de nitrate en plein cœur de Dieppe. Alors, comment on gère ces contradictions-là au sein du Front de Gauche? Parce qu'à mon avis, les gens du Parti de Gauche sont pas dans ces sensibilités-là. Hein, je dis pas que tous les communistes ont forcé, mais là, moi, je parle de ce que je connais, la Seine-Maritime, c'est ça, quoi.
C'est Mais je vais vous répondre en même temps qu'à la boucle de question. C'est comment on peut mener le débat à gauche? Parce que c'est une grosse question. Déjà, partez de l'idée pour que vous compreniez, c'est que j'ai d'abord une longue expérience, c'est comme ça, c'est l'avantage de l'âge, hein. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. J'ai commencé ma vie politique, c'était le monde de Yalta. Vous imaginez l'écart avec maintenant? Quand j'avais 20 ans, il y avait des révolutions socialistes à peu près tous les deux ans, quelque part. Et on discutait doctement entre nous de qu'est-ce qui était préférable, le modèle tanzanien, le modèle yougoslave, c'était ça les débats des gens de gauche, ou bien est-ce qu'il fallait inventer autre chose, et nous on avait inventé le programme commun. Donc, ayant tout ça présent à l'esprit, il y a des nouvelles qui sont glaçantes. Parce que j'ai vu le mouvement socialiste à partir de... autour des années de l'effondrement du mur de Berlin, parce que l'effondrement du mur de Berlin... Il y a l'aspect positif que tout le monde connaît, la liberté, et ainsi de suite. Et puis il y a quelques aspects aussi qui, quand même, rien n'est totalement d'une couleur. Le rapport de force complètement déséquilibré en Europe occidentale, qui fait que depuis, le curseur du partage de la richesse s'est déplacé brutalement du côté du capital. Et d'autant plus brutalement qu'on était à l'Est. Hein. Parce que nous, on hurle parce qu'on est passé de 70-30 à 60-40. Qu'est-ce qu'ils devraient dire en Tchécoslovaquie, ils sont passés en Tchéquie, ils sont passés à 50-50. C'est-à-dire des taux de ponction du capital sur le travail qui sont sans précédent dans l'histoire. Hein. Bon, donc, quand est arrivée la vague qui est arrivée des États-Unis par Bill Clinton, les sommets des modernisateurs dans les années 90, tout ça, jusqu'à la capitulation sans condition. Les blairistes, évidemment, les premiers, et puis après eux, les schroderiens, alors ça c'était encore pire, parce que c'était le cœur de la social-démocratie traditionnelle qui démantelait lui-même l'État social qu'il avait construit. Bon. Je voudrais quand même rappeler à tout le monde ici, Schröder a mis la retraite à 67 ans. Hein. Quand même, ça vaut la peine d'être socialiste pour faire ça. Et puis alors déjà, ces nouvelles-là étaient consternantes. La grande coalition, on peut dire, oui, je suis une amie d'Allemande, enfin quand même, dans le contexte, c'est terrifiant. Mais évidemment, la catastrophe italienne, pour moi, est celle qui est glaçante. C'est-à-dire, il n'y a plus de parti de gauche. Ça répond à votre question. Moi, je suis obligé de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je tente de raconter aux gens que le débat continue à l'intérieur du PS, que faire autrement, c'est diviser, blabli et blabla, enfin, tous les trucs qu'on connaît. Sauf que, petit à petit, la pente est prise, et qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de résistance, et puis ça continue. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé d'aller dire que M. Bayrou devait être Premier ministre en pleine campagne présidentielle. D'accord ? Évidemment, le dire à l'époque eût été divisé. D'ailleurs, vous avez remarqué, je n'ai rien dit. Hein ? C'est sympa. C'est à moi qu'on avait fait écrire les argumentaires contre Bayrou.
C'est pas le Parti Socialiste qui a pris cette décision.
Hein ?
C'est pas le Parti Socialiste qui a pris cette
décision. C'est le candidat investi par le Parti
Socialiste. Avec le recul, on peut dire. Deux ans avec Sarkozy, ou deux ans avec Royal Bayrou, si j'avais eu à choisir, il n'y avait pas photo.
Ça, c'est clair.
Oui, mais c'est comme moi.
Hein. Enfin, c'est le choix qu'on avait. Hein.
Si j'avais eu à choisir, par exemple, j'aurais pas fait philo. Parce que je pouvais pas bouffer après. Et puis, finalement, elle me demande si je me serais marié. Parce que j'ai épousé une fille formidable, j'ai eu une très belle fille, mais on a fini par divorcer. Était-ce bien raisonnable, c'est pour en arriver à ce résultat-là? Il y a évidemment, une fois que la partie est jouée, c'est toujours facile de la réécrire, mais sauf qu'on est que des pauvres êtres humains à confronter tous les jours à quelque chose.
Mais pourquoi négocier avec le NPA qui, idéologiquement, est moins proche de vous que le PS, qui prône quand même la révolution, qui est un parti trotskiste par définition, et puis qui est par essence révolutionnaire, quoi? Donc moi, j'arrive pas à comprendre.
Ah oui, mais moi aussi, alors ça, c'est pas. Je suis pas dérangé par la révolution, on est quand même dans un pays.
Vous êtes en partie de gouvernement, vous ne souhaitez pas gouverner. C'est ça qu'il faut.
Non, mais ça, c'est vous qui le dites.
Bah, enfin, on l'écoute encore sur France Inter, dès qu'on parle de gouvernance, il commence à tiquer.
Hein. Il a une vision du gouvernement, c'est ça qui est le problème.
C'est le confort pour lui, la gouvernance, ça passera par.
Oui, mais ça serait plus intéressant de l'interroger là-dessus que de faire semblant de croire qu'il ne veut pas gouverner. Parce que c'est pas vrai, il a l'intention de gouverner. Sauf qu'il n'y arrivera pas, à mon avis, je l'ai déjà demandé, moi. Hein. Enfin, je vais revenir à ce qu'on disait. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse filer ou on dit le danger de mort est terrible. Il peut y avoir une situation où la gauche historique disparaît du tableau. La première fois que j'ai écrit ça, c'est dans un bouquin qui s'appelle Enquête de gauche, et je trouvais que l'expression était quand même. J'avais été trop loin. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore eu l'histoire italienne. Alors vous me croyez ou pas, mais moi ça me pétrifie. J'ai donné ma vie au combat socialiste, au sens générique du terme. Donc c'est un truc qui est glaçant. Ça c'est pour l'Europe. Et après, les camarades vénézuéliens, du Parti social-démocrate vénézuélien, qui n'ont divisé personne. Ils ont été mignons et sages, ils vous conviendraient à mort. Jusqu'au jour où le gouvernement social-démocrate a fait tirer sur la foule. Évidemment, c'est pas de ça dont on va parler. On va parler de Chavez qui ne fait pas assez ceci, qui ne fait pas assez cela. Hein. Mais comment Chavez est arrivé au pouvoir avec 54% des voix au premier tour? Comment il a fait pour gagner 11 élections sur 12? On s'en fout. Voilà. Et puis je pourrais vous faire le tour. Donc la social-démocratie, membre du parti de l'Internationale Socialiste au Venezuela, est une organisation criminelle dont les dirigeants sont en prison. Pas mis en prison par Chavez, mis en prison par le gouvernement précédent de droite. Hein, pour corruption. Et nous, on les y aura envoyés pour meurtre. Le même parti en Argentine a demandé aux militaires de tirer sur la foule, mais les militaires ont dit, écoutez, nous on a déjà la dernière histoire sur les bras, donc on peut le faire. Hein. Donc, ils ont donc envoyé les policiers, qui sont des amateurs, et n'ont tué que 100 personnes. Voilà pour la social-démocratie argentine. Et je peux faire le tour comme ça, un pays après l'autre, c'est la honte à chaque fois. Bon, la honte, mais la honte, quelque chose qui, pas simplement où vous dites je suis en désaccord, vous avez honte d'être dans le même parti que des gens pareils. Voilà. Tous les partis qui ont gagné ont tous gagné contre la social-démocratie. Même Lula, où ils font tous les malins ici. Oui, ils préfèrent Lula à Chavez, c'est même pas ce que raconte Lula, mais peu importe, ils le préfèrent. Parce que c'est marqué dans le journal Le Monde. Parce que Lula, c'est mieux que Chavez. D'ailleurs, dans le mec écrit dans le journal Le Monde, c'est un mec bien, hein, vous le connaissez tous.
L'Angelier.
Hein?
L'Angelier.
Paolo Paranagua, ancien membre de Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentine, la fraction la plus dure qui tirait sur les flics dans la rue et les gardiens de banque, qui a été en prison, fait du droit commun et qui maintenant nous explique pourquoi toute lutte révolutionnaire est nulle et seule la social-démocratie est bien. Vive le journal Le Monde. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est ça l'état du débat du mouvement socialiste mondial. Et quand on dit « Ah, vous critiquez les socialistes !» Ben oui, il n'y a pas d'autre parti de gauche que le parti socialiste dans des tas de pays du monde. Donc on ne peut pas, quand on est...
Pardon ? Ils sont de gauche ou ils ne sont pas de gauche ? Je comprends plus.
Je vois bien que vous ne comprenez pas grand-chose à la vie de la gauche, mais ce sont des partis de gauche...
C'est pas très cordial, votre façon de...
Mais votre question non plus, mais je ne suis pas cordial du tout.
Moi, c'est une question politique.
Oui, non, mais...
Allez-y, même.
Non, mais vous dites, on ne comprend pas bien. Vous voulez me faire dire quelque chose que je ne vous dirai pas.
Vous n'êtes pas en cohérence. Vous dites, vous décrivez la gauche en France, enfin le Parti Socialiste en France, en les assimilant à ceux qui tirent sur la foule en Amérique du Sud.
Pas du
en
tout.
En disant, c'est insupportable.
Pas du tout.
Si,
non, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas.
Je vous écoutais très
bien. Non, vous n'écoutez pas. Vous êtes parti sur un fil qui est un préjugé et vous le continuez. Mais c'est vous qui tenez pas debout, parce que si on ne peut pas critiquer le Parti Socialiste, je suis en train de vous expliquer la chose suivante. Alors bon, je vois que vous êtes un peu rudimentaire, donc on va tout reprendre à zéro. Le Parti Socialiste français, oui, le Parti Socialiste, oui, mais je vous le fais parce que vous le méritez. Le Parti Socialiste français a toujours été une exception à l'intérieur du mouvement socialiste international. Le saviez-vous? Bon. Donc je ne l'assimile pas au Parti Socialiste Vénézuélien. Je ne l'assimile pas au Parti Socialiste Péruvien, quoiqu'il l'ait soutenu. Je ne l'assimile pas au Parti Socialiste Brésilien, quoique aujourd'hui, les socialistes français se vantent de Lula, alors qu'ils ont soutenu son opposant. Je ne l'assimile pas, je ne l'assimile pas, je ne l'assimile pas. Je vous parle de l'état du mouvement socialiste mondial. Et je précise, le mouvement socialiste mondial, c'est la seule gauche qui existe dans des dizaines de pays. Dans des dizaines de pays, vous comprenez, vous entendez, il n'y a qu'un parti qui se dit de gauche, et c'est un parti membre de l'Internationale Socialiste. Donc quiconque n'est pas d'accord avec ce parti est obligé de le critiquer. Vous le comprenez? Et quand on ne le critique pas, et qu'on ne prend pas ses moyens à temps, on devient complice de criminels. C'est ce qu'ont fait les camarades du Venezuela en étant membres de AD. Ils n'auraient pas dû rester membres de AD. C'est ce qu'ont fait les camarades au Pérou. Ils ne devraient pas rester membres de l'APRA parce que Alan Garcia est un assassin, un criminel et un corrompu. Ils ne devraient pas rester membres du Parti Social-Démocrate brésilien parce que c'est un ramassis de corrompus. Ils ne devraient pas rester membres du Parti Radical argentin parce qu'il n'y a plus de Parti Radical argentin, etc., etc., etc. Donc, moi, mon devoir en France, où, virgule, le Parti Socialiste français est spécial, virgule, n'est pas un ramassis d'assassins et de corrompus, virgule, comporte des gens tout à fait honorables, virgule, et de les critiquer, ouais, ça prend du temps, c'est de les critiquer à mort, de les critiquer à mort, parce que le point où ils nous emmènent, c'est le même point que les Italiens, le même point que les Allemands, et à la fin, ils termineront dans la même abjection, parce qu'il y a des effets de système. Et donc, la responsabilité individuelle d'un homme libre, c'est de s'opposer au moment où on peut le faire, et d'essayer de le faire de manière utile et constructive. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je jette des bombes? Est-ce que je dis qu'au deuxième tour, je ne voterai pas pour le candidat de gauche le mieux placé? Est-ce que je suis en train de vous expliquer que Martine Aubry est une bonne camarade de jeu d'Alan Garcia? Non, pas du tout. Je suis en train d'expliquer qu'il faut changer la gauche, changer son centre de gravité, la rectifier sur son programme, sur son orientation, le reste, et que moi, je quitte le Parti Socialiste, où je vivais tranquille, sur mon bord de cheminée, où je figurais en qualité de spécimen de gauche, le dernier marxiste, et je me suis jeté dans le vide pour faire le Parti de gauche avec les communistes, avec qui j'avais des désaccords, et j'ai toujours des désaccords qui sont importants. Le problème, ce n'est pas les désaccords. C'est comment on gère la possibilité de se retrouver. Voilà. La condition avec les socialistes, c'est qu'il faut qu'on s'avale le programme que je combats. Je ne veux pas être d'accord. Si les socialistes me disent « Mais venez, monsieur Mélenchon, mais avec le MoDem !» Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Vous comprenez? Voilà. Donc, ils ne nous auront pas.
Et avec le NPA, donc la différence.
Alors, ouais, on va venir sur les différences. D'abord avec les communistes, parce que...
Oui, bon, c'est intéressant quand même.
Clairement, alors là, c'est un problème, mais très, très, très intense, parce que la question du productivisme, c'est une question qui n'est pas pensée à gauche. C'est pas parce que les Verts le pensent, l'ont pensé, et on produit beaucoup de choses sur le sujet, que pour autant, c'est quelque chose qui est compris. Même au Parti Socialiste, d'abord, bon, quand j'y siégeais, c'était pas ma première préoccupation, honnêtement. Bon, c'est une chose, on entraîne une autre, j'ai commencé à réfléchir aux problèmes différemment, par mes propres... Donc, clairement, le productivisme, c'est un concept qui n'est pas bien compris au Parti Communiste. Et je pense que c'est très divers entre eux, mais que globalement, ils ont les mêmes réflexes que ceux que moi je pouvais avoir il y a 5-6 ans. Par exemple, sur le nucléaire, c'est une vision acritique. Je pense, moi, qu'ils se vivent dans une illusion, que la plupart des arguments qu'ils mettent en avant à propos du nucléaire ne sont pas fondés. Bon, genre, le nucléaire nous rend indépendants, c'est pas vrai. Le nucléaire est sûr, jusqu'au moment où il ne l'est plus, donc on ne peut pas appeler ça sûr. Bon, après, il y a des pans entiers du non-dit qui pourtant intéressent les communistes. La défense nationale, ça existe. Bon, comme est organisé le parc des centrales nucléaires dans ce pays, notre vulnérabilité, elle est considérable. Hein. Donc il y a plein de discussions à avoir. Mais honnêtement, ce n'est pas une discussion qu'avec eux, c'est une discussion dans toute la gauche. Et plein de des milliers de réflexes que nous avons tous, des manières de penser. Par exemple, l'autre jour, j'écris un truc sur les retraites, et puis au bout d'un moment, je m'aperçois qu'il n'arrêtait pas de parler de croissance. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bon, alors après, c'est un peu comme vous, là, je me dis, merde, je vais faire des nuances. Il commence à mettre des phrases partout, on ne comprenait plus rien. Donc j'ai enlevé, mais je me dis, bon, il va falloir que je revienne sur le sujet, que je mette, c'est une croissance sélective, tout ne doit pas croître, etc., parce que j'ai parlé des retraites. Donc je pense qu'on a une révolution culturelle très profonde à faire. Mais nous aussi, nous on a. Moi, quand j'ai commencé le parti de gauche, je savais qu'il fallait tout de suite tourner là-dessus. Tout de suite, il fallait dire, le cadre est changé. le cadre est changé. Donc on a mis dans les quatre premiers points du programme du parti, il y a la planification écologique. Double hurlement, écologiste pour les uns, planification pour les autres. Enfin, bon. Mais il fallait tout de suite se mettre dans... Alors pour moi, pour être honnête, mon point d'entrée était plutôt idéologique, philosophique. L'écologie politique refonde l'intérêt général humain. Donc à partir de là, tout le reste vient. S'il y a un intérêt général humain, comment pouvons-nous le connaître, la délibération collective, ce qui est bon pour tous, naninana. Et on ne peut pas savoir comment une tête entre dans une logique. Vous savez, moi, comment je suis devenu marxiste ? Bon, voilà, j'étais un jeune homme qui avait besoin d'une explication globale du monde. Bon, jusque-là, ma famille était plutôt de culture chrétienne, donc je m'étais tourné vers ça. Bon, le christianisme, c'est une belle Tangshaung, hein, c'est vision d'ensemble du monde. Bon, j'étais tombé sur Teilhard de Chardin, ça m'avait plu, parce qu'il y avait au moins il y avait une dimension historique. C'était pas un truc où on tournait en rond. Bon. Et puis, quand même, il y a eu mai 1968, donc on voit bien que les valeurs je n'étais pas religieux, mais enfin, en tout cas, c'est pas de ce côté-là qu'on allait trouver des clés d'explication. Alors, à la fin des fins, il y a mai 68, il y a la guerre du Vietnam, il y a tout ça, vous ouvrez les yeux, puis voilà, un jour, je suis tombé sur un livre, le livre qu'il fallait que je rencontre, qui est l'idéologie allemande de Karl Marx. Et bon, là, tout d'un coup, bah, vous flashez, parce qu'il y a une méthode intellectuelle qui vous éclaire. Vous vous mettez à travailler, à vérifier, à voir si c'est vrai, pas vrai. Bon. Là, c'est pareil pour ma manière d'entrer dans l'écologie politique. Je voyais bien que ce qu'il disait était juste. Et là, le pire coup que je me suis pris, c'est sur le nucléaire. Parce que quand j'ai été élu sénateur, on me saoulait avec la centrale de Nogent. Dans mon coin, il y avait des gens qui étaient contre la centrale de Nogent. Moi, j'étais béton électricité, hein. Mais quand même, la dignité de parlementaire, je commence à poser des questions écrites. Et alors là, la surprise, quoi. On répétait tout le temps la même chose, on comparait, c'était les mêmes réponses que faites à d'autres, au mot près. Je vais voir la centrale, et donc la visite de la centrale a fini par me foutre les jetons. Là, je me suis dit, mais ça va pas, là, qu'est-ce que je suis en train de faire, de raconter des histoires aux gens, le nucléaire est sûr, indépendant, c'est pas vrai. La centrale de Nogent a subi à intervalles réguliers des attaques des lapins. Je ne veux pas vous parler de la centrale de Nogent, mais je vous jure qu'il faut avoir peur, quoi. Donc ça m'a mis en... Hein. Donc à partir de là, je me suis dit, mon gars, les certitudes, c'est fini, il faut regarder. Après, on a eu les débats au Sénat sur l'enfouissement des déchets. Et là, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne peux pas dire, j'y étais pas, j'ai pas entendu, quoi. J'ai entendu des gens dire qu'il y a qu'à foutre tout ça dans la mer. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment ils peuvent dire un truc pareil ? Donc ça montrait qu'il y avait une perception du risque qui n'était pas la bonne. Donc ça, c'est pour vous répondre. C'est une grosse affaire de la révision générale de l'idée qu'on se fait. Et moi, elle m'intéresse parce qu'elle a une dimension de révolution culturelle qui est indissociable de l'idée socialiste et républicaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une révolution républicaine et socialiste dans ce pays s'il n'y a pas en même temps une révolution culturelle. Moi, je ne suis pas d'accord pour recommencer, comme quand j'avais 20 ans, à dire avec les capitalistes, c'est une Mercedes pour quelques-uns, une deux chevaux pour tous les autres. Pour nous, ça sera une Mercedes pour tout le monde. On dit non, il faut produire français. Bon, je ne sais pas quelle était la bagnole de l'époque. Bon, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être. Le socialisme a comme projet d'étendre ce que pratique une petite poignée d'élites riches à toute la population. Ça ne peut pas être ça. Il faut dire aux gens, non, ce n'est pas ça qu'on fera. Non, tu n'auras pas un yacht. Il n'y aura pas un yacht par tête de pipe, non, ça on ne le fera pas. Donc, j'en sais rien, mais apparemment, moi, on me dit que c'est pas la meilleure des trouvailles. Hein. Apparemment, les gens qui sont dessus, ça n'a pas l'air de les rendre plus heureux que ça. Hein. Alors, donc, cette dimension de révolution culturelle, elle nous ramène là aussi à des fondamentaux du socialisme et de l'esprit républicain. Parce que quand vous lisez tous les premiers républicains, leur problème, c'est ça, c'est comment faire une république avec des ignorants, des gens en proie à des préjugés, à des dominations culturelles qu'ils ne maîtrisent pas, et ainsi de suite. Donc vraiment, l'écologie politique a fourni un moteur clé en main pour faire repartir l'idéal socialiste et républicain pour moi.
Alors, quand la planification écologique est à la base, au début, les quatre premiers...
Oui.
On n'appelle pas son parti le parti socialiste écologique ou le parti... Enfin, je veux dire, l'écologie, si elle est au cœur du problème...
Oh, parce que... Ça a pris des heures, cette discussion. Bon, l'idée de gauche nous permet... on s'est appelé parti de gauche, c'est ça notre... Alors en dessous, maintenant, on a mis un sous-titre, hein, à l'arrivée de Martine Billard et de ses amis.
Et un sous-titre aussi.
Le sous-titre, c'est écologie, socialisme, république. Ça reprend les trois. Hein,
vous êtes large là.
En fait, vous, c'est au travers de la question du nucléaire que vous êtes arrivé.
Pour moi, oui.
Mais j'ai l'impression que c'est comment l'ADN même de l'écologie, une sensibilisation. C'est comme ça que c'est né aussi dans les années 70, l'écologie via le combat contre le nucléaire civil. Donc, ça fait partie même des gènes de ce qui amène à l'écologie. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, donc, vos partenaires vont plus être les communistes, sans qu'on a ces positions qui ne sont pas claires, que les Verts dans ce cas-là? Que les Verts.
Bah, c'est essentiellement la question des systèmes d'alliance qui nous a retenus. Et puis il y a aussi, c'est tout un petit monde, l'autre gauche. Ouais. On discute les uns avec les autres, on se connaît depuis des années, on sait qui, quelles sont les positions de chaque protagoniste. Donc chez les Verts, il y avait un débat assez comparable à celui qu'il y avait au Parti Socialiste. Martine Billard n'est pas sortie de chez les Verts parce que s'est trompée. Mmh. Bon, d'ailleurs, on le voit, l'Europe écologie, c'est pas les Verts. Moi, je joue peut-être l'illusion qu'il y a une différence qui est assez forte entre les deux pour qu'ils puissent y passer quelque chose, oui. Parce que moi, mon idée, c'est pas le parti de gauche. Bon, évidemment, on a fondé le parti de gauche, il joue son rôle et on le développe, on y est attaché comme outil, mais c'est pas une fin en soi, c'est pas vrai. La fin en soi, c'est la refondation de la gauche. Et est-ce que le peuple français peut à nouveau apporter une contribution à l'histoire universelle? Bon, voilà, ça c'est pas pareil si c'est les Français qui font une révolution républicaine, socialiste et écologiste, et si c'est un pays capable. On est la cinquième puissance du monde, on est militairement en principe indéstabilisable, alors que tous nos amis, tout le temps, partout ailleurs, leur premier problème c'est ça, c'est que l'ambassade des États-Unis. Organisent des complots, des invasions, des scissions, enfin ils sont là pour ça, quoi. Ouais, puis et on a une capacité absolument extraordinaire, quoi. Bon, parce qu'on a un peuple qui a un haut niveau d'éducation, on a des infrastructures, enfin on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est ça la fin, le but de l'affaire. Alors il y a deux scénarios qui peuvent nous y conduire. Pour ça, je vous parlais des révolutionnaires. Souvent, vous savez, ce qui se passe dans les discussions, c'est que beaucoup de gens ont une structure intellectuelle au sens philosophique idéaliste, c'est-à-dire qu'on oppose des catégories conceptuelles immobiles qui voyagent dans le temps. Et puis il y a une autre vision qui est une vision plus mouvementiste, on va dire pour prendre l'ancien vocabulaire dialectique, même si il y a plus de deux corps qui sont en interaction, qui pensent toutes les choses dans leur mouvement. Hein. Et moi, les révolutionnaires, si je prenais au pied de la lettre ce qu'ils racontent, ils ne m'intéressent pas. Parce qu'il n'y a aucune chance de réaliser un scénario pareil. Donc d'ailleurs, quand on leur demande, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas vrai qu'ils veulent pas le pouvoir, mais ils le veulent dans des conditions qui sont des conditions de d'abord complètement irréelles. Et puis si jamais elles devaient devenir réelles, on aurait un débat pour savoir si on est d'accord. Hein, bon, on a quand même l'expérience, et je ne suis pas en train de dire le stalinisme, au nom du stalinisme, condamner toute forme de socialisme, c'est pas du tout ça. Mais on a une expérience, puisque le grand fait fondateur de la première grande crise du capitalisme, c'est la Première Guerre mondiale, et sa première grande réplique, c'est l'URSS, la naissance de l'URSS, et ensuite bon, de ce qu'il a connu. Donc on a une scène fondatrice sur laquelle on a tous beaucoup discuté. Hier encore, on en parlait en rigolant à quelques-uns, sur mon âge. Les débats qu'on avait à l'époque pour savoir si oui ou non il fallait disperser la constituante comme l'a fait Lénine. Bon, et ben sur quatre qu'on était, il n'en restait plus qu'un qui se posait des questions, quoi. Parce que les trois autres disaient moi je fais pas ça. Hein, je ferai pas ça. Bon. Mais lui, on peut pas parler. Quand je parle avec que ce soit Besancenot ou Gron, il est impossible de parler de la stratégie de conquête du pouvoir. Moi c'est clair, j'ai expliqué. Voilà, on fait un parti, on fait un front, on passe devant les socialistes, on fait une nouvelle coalition, et c'est nous la gauche, voilà. Mais les socialistes se désistent pour nous, comme nous on désiste pour eux aujourd'hui. Alors on peut dire, c'est nul, ça vaut rien. Bon, d'accord, on en fait. Qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer? Comment on peut faire autrement? Et qui soit conforme à nos objectifs. Il ne s'agit pas d'utiliser des moyens qui n'ont plus rien à voir avec les fins qu'on vise. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la fin est dans les moyens, et pas l'inverse. Hein. Bon. Pour ceux qui ont lu ça, leur morale est la nôtre, j'ai tourné la page. Quoi. C'est pas mon truc. De Léon Trotsky. Bon. Donc, voilà, eux, ils ne le disent pas.
Il y a une violence quand même dans ce qu'il propose. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Besançon, Révolution édité en 2003, où à la fin il s'en rappelait, où il dit en gros, ils n'auront rien, on aura tout, et en gros, ils font la révolution. Et je ne comprends pas qu'il y a un. Pour moi, en fait, je suis un peu quelque temps, pour moi, votre démarche est sincère, mais j'arrive pas à comprendre. Enfin, si, je comprends du point de vue électoral, mais ça me semble vraiment. Paradoxal de vouloir s'allier avec le NPA ou même se rapprocher. Les objectifs sont tellement lointains, influer sur le PS, sur, il y a peut-être une branche du PS à fractionner, je ne sais pas, mais influer, enfin, s'allier avec Europe Écologie, enfin, si le MoDem vous effraie. Mais le NPA, pour moi, c'est vraiment le parti, c'est un parti d'extrême, c'est un parti anti-républicain.
Ben, on n'est pas d'accord, voilà tout.
Vous
avez lu ce qu'était le Parti Socialiste des années 70. Alors, je sais bien, vu ce qu'il est devenu, personne ne veut y croire. Et puis quand moi je dis à quoi j'ai adhéré, on me dit comment t'as pu y croire? Ben, comment j'ai pu y croire, con? Parce qu'on y croyait tous. Voilà. On était un parti révolutionnaire. C'est marqué dedans. Moi quand j'ai adhéré, c'est marqué dedans, on me l'a fait dire. Quand je suis arrivé à ma fédération de l'Essonne à Palaiseau, on m'a montré qu'on avait un double vitrage à toutes les fenêtres du local de la fédération, parce que, camarade, l'ennemi de classe ne se laissera pas faire. Maintenant, on peut rire, mais nous, on y croyait. Quand on a gagné en 1981, on attendait l'insurrection populaire. C'est ça le problème qui s'est fait. Ça, c'est le non-dit de la période. Les mecs de droite défilaient en gueulant Allende, on t'a eu, Mitterrand, on t'aura. Nous, on disait, bah, allez, venez pour voir. Qui c'est qui va voir qui? Bon, tout le monde est. On s'attendait à ça. On avait en tête le scénario 1936, victoire électorale, déferlement des masses. C'est pour ça qu'il y avait autant de trotskistes cachés au mètre carré dans ce parti. Parce qu'il avait tout ça dans la tête. Donc il fallait être à l'endroit où. Bon, mais bien sûr, tout ça a une explication. Le mec, il n'est pas entré là parce qu'il y avait de la lumière, qu'il y avait une stratégie. Et comme on était tous sur le même scénario, en se demandant jusqu'où il irait, voilà ce qu'était la vision révolutionnaire du socialisme démocratique des années 70. On peut toujours dire que ce n'est pas ça qui s'est passé, mais je rappelle quand même qu'on a nationalisé toutes les banques, le tiers de l'industrie française, etc., etc., etc. Et que le vieux qu'on présente tout le temps comme un Machiavel cynique et sans principe a refusé de signer les ordonnances de privatisation jusqu'à son dernier souffle. Hein ? C'est pour dire que...
Vous avez une explication du pourquoi il n'y a pas eu le peuple...
Eh bien, il a fallu que j'en trouve une, mais sur le moment, on était tout simplement sidérés. Mais au sens quasi clinique du terme, c'est-à-dire que comme il n'y a rien se passé comme prévu, voilà, on arrive à 83, mais on dit la trahison de 83, oui bien sûr. Après, on avait dévalué 4 fois. 4 fois. Les gens qui partaient en vacances, ils avaient un contrôle d'échange. Donc, on peut maintenant, on a tout oublié, il ne s'est rien passé, tout ça, ça compte pas, mais c'était ça le problème concret, on faisait quoi? On continuait, ça voulait dire on redévaluait encore un coup. Et puis, si on arrêtait, ça voulait dire aussi qu'on commençait à... Bon, vous rappelez tout ce débat. Lui, il invente une stratégie, le vieux, de sortie de ça. Et qui est une stratégie cohérente, complète. Puisque nous n'arrivons pas à faire le socialisme dans le cadre d'un État-nation, on va le faire dans un espace réglementaire et législatif plus large, pas si large que ça. À l'époque, on est 12. Hein, il n'est pas encore 16. Qu'est l'Union européenne où nous pesons d'un poids qui n'a plus de rapport avec le poids que nous pesons comme pays qui dévalue sans arrêt face au reste du monde.
Que 2 ans plus tard, on est dans l'acte unique et donc dans le libéralisme, dans le marché unique.
Mais ça, vous le savez maintenant, je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est les vraies discussions théoriques. C'est celle-là qui compte. Le reste, c'est du pipeau, c'est de la flûte de posture. Déjà, regardons le moment. Nous, les très intelligents, je me mets dedans, hein, qu'on était là, il faut faire autrement, on proposait quoi? Qu'est-ce qu'on proposait de faire? Rien, des paroles, des phrases. Maintenant, je le sais. Ou alors, on aurait pu faire autrement si on avait eu une dynamique populaire. Donc, question, pourquoi on n'a pas eu une dynamique populaire? Si le peuple français, c'est comme en 1789 et la suite. Bon, les gens sont là, ils mettent des piques, des fusils, des machins, c'est plus pareil. Parce que, l'envahisseur arrive et dit, si vous continuez comme ça, vous cassez la gueule à tous. Pouf, les mecs, ils courent, viens voir. C'est vanille, tout ça, bon, là, il se passe rien de tout ça. L'envahisseur aussi, il est venu, il a dit, les Français, c'est pas bien, des communistes au pouvoir, tout nationalisé, on n'est pas d'accord, d'ailleurs, on retire nos sous, bon. Il nous est arrivé la même chose. La contrainte extérieure avait un visage civilisé, parce qu'on est un grand pays, qu'on est puissant et qu'on est fort. En Amérique latine, on ne s'en compte pas de détails. Hein. Le proconsul des États-Unis d'Amérique vient et dit « Si vous continuez comme ça, vous n'aurez pas le droit de ramener l'argent des immigrés. » Ils ont fait ça au Nicaragua, ils ont fait ça au Pérou, ils ont fait ça dans tous les pays où ils ont pu menacer les gens, les insulter et laisser entendre qu'en plus, ils pourraient faire une intervention militaire. Et ce qu'ils ont fait au Honduras, tout le monde a compris la leçon, plus les 7 bases qu'il y aura en Colombie. Je rappelle ça parce que souvent, les gens, ils ont une vision Disneyland de la politique. Alors on est là, on a tous un avis, et puis tout se vaut. Non, c'est des tensions d'intérêt terribles avec des puissances qui frappent. Donc, à cette époque, pas d'implication populaire. Ça, pour moi, c'est la leçon numéro un pour la suite. Et le rôle des responsables politiques, c'est de gérer en provoquant cette intervention populaire. Et ce que je raconte là, c'est pas faire du Léon Trotsky revu et corrigé par les urnes. Hein. Il suffit de regarder comment faisait le général de Gaulle. Lui aussi faisait ça. Hein. Chaque fois que le système se rebloquait, allez, oh, il remettait 100 balles dans la machine pour que ça reparte. Et c'était un référendum sur ceci, un référendum sur cela, il prenait à partie les uns, il prenait... Parce que c'est ça la vie vraiment politique, c'est une implication croissante du peuple. Donc moi, c'est ça la leçon que je retiens pour la suite. Hein. J'ai quelques idées sur la façon dont je m'y prendrais si c'était moi qui dirigeais ce pays. Par quel bout je m'y prendrais pour que cette implication populaire elle ait lieu. Alors, ça c'est pour la question que vous posiez qu'est-ce qui s'est passé, qu'a foiré. Je pense que c'est ça notre principal angle mort. Et c'est aujourd'hui notre plus grande difficulté. Donc, pour revenir aussi à l'intérêt des révolutionnaires, parce que, après tout, eux aussi, ils pourraient dire qu'est-ce qu'on en a à fiche de Mélenchon, il est républicain, il est jacobin, enfin, tout pour plaire, quoi. Hein, à dire toutes sortes de choses, j'ai entendu 100 fois la République coloniale, et blabli, et blabla, je fais ça comme vous voulez, c'est comme votre malheureux collègue là, que j'ai agressé il y a tout à l'heure. Bon, c'est qu'au bout d'un moment, les effets de répétition des questions gâtent le caractère, voilà. Hein, mais j'espère que vous ne m'en voulez plus. Moi, en tout cas, je ne vous en veux pas. Voilà, donc... pourquoi je suis avec eux
sur les
je termine. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Ils représentent quelque chose dans ce pays. Ils ont beau être bordéliques, mais c'est une capacité de révolte, c'est une capacité d'indignation. Merde, ils se font éclater la tête dans les syndicats. C'est eux qui résistent souvent, qui sont en première ligne pour emmener les autres à la bataille, les ramener au combat quand tout le monde a peur. C'est vital, des gens comme ça. Alors après, on va dire, oui, nous ne sommes pas d'accord sur le... Oh, attends, on verra. Peut-être que chemin faisant, j'en ai vu d'autres hein, aussi, qui étaient. Ils ont été très loin de l'autre côté, hein, qui se sont calmés en cours de route. Donc je ne dis pas se calmer, mais qui finiraient par comprendre quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent, parce que c'est le bilan des échecs du XXe siècle. En France, il y a une hégémonie culturelle de l'idée républicaine. Quel besoin de massacrer ça? Ça joue pour nous. C'est absurde de cracher là-dessus, de taper dessus. Pourquoi avoir peur des urnes? Peur de quoi? Pourquoi on devrait avoir peur? C'est quand même pas les masses de curés et de petits commerçants qui vont nous submerger cette fois-ci. On disait ça dans les années 30. Hein. Bon, on n'a pas à avoir peur des urnes. Et puis en Amérique latine, on les gagne toutes. On finira par en perdre. Hein. Vous inquiétez pas que l'on entendra parler. Mais donc on n'a pas à avoir peur du mécanisme démocratique. Moi j'ai confiance, je me dis je vais les convaincre. Voilà. Et alors ça commence par Besancenot, je passe pas mal de temps, pour rien, j'en suis d'accord, mais il ne faut pas renoncer. Quoi. Donc moi je pense que c'est bien d'être avec eux. Et des fois ils sont emmerdants, Mais bon, c'est quand même eux qui ont tenu aussi un peu le flambeau allumé pendant longtemps. Hein.
Kevin, il est...